Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de la deuxième saison de En action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu spécial. Ça sort un petit peu de l'activité physique puis de la santé, mais ça touche la santé mentale, ça touche notre bien-être personnel. On va parler d'organisation avec Marie-Sophie Beruex, qui est une organisatrice professionnelle. Salut Marie-Sophie.
Allô Daniel, ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, toujours.
Bon, tu te définis comme une organisatrice professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une organisatrice professionnelle?
En effet, c'est le titre officiel qu'on a. C'est vraiment un métier. Donc, on est organisatrice professionnelle. C'est qu'on aide les gens, en fait, à désencombrer, à réorganiser leurs espaces pour qu'ils soient fonctionnels selon leur situation et leurs besoins. Donc, c'est ça. Nous, on vient vraiment chez les gens puis on les aide à reprendre le contrôle, en fait, de leur environnement. Et puis, c'est ça, c'est pas un métier encore très, très connu au Québec. On n'est pas beaucoup, d'ailleurs, au Québec. À Québec même, je pense qu'on est maintenant comme 5, peut-être. Puis, à grandeur du Québec, on est peut-être une trentaine, là, je dirais environ.
OK. Ça. Puis, c'est quoi la formation, si on veut, pour réussir à faire ça? Comment ça fonctionne?
Alors, il n'y a pas vraiment encore de formation en tant que telle. Il y a l'Association des organisateurs professionnels du Canada qui donc regroupe notre métier et qui donne de la formation continue comme à l'interne, mais il n'y a pas encore vraiment, tu sais, un cours là, au cégep qu'on pourrait dire « je fais ce métier-là ». Souvent, on fait des cours de design d'intérieur ou des choses comme ça, puis que ça devient un petit peu le parallèle. Puis c'est ça. Donc, c'est pas encore très très connu, justement, puis très homologué. T'sais, on n'a pas un ordre et tout. On a l'association qui nous représente puis qui fait quand même que moi, je suis membre de l'association parce que ça donne une certaine crédibilité puis parce que, oui, on a quand même certains cours obligatoires à faire, comme au niveau de l'éthique. T'sais, on va pas dire ce qu'on voit chez les gens. T'sais, il y a des choses comme ça parce qu'on rentre quand même chez les gens. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Là, on peut pas faire n'importe quoi.
OK. Est-ce que c'est un peu comme ce que fait Marie Kondo là, sur Netflix?
Oui, exactement. Marie Kondo, la japonaise.
Kondo, excusez.
Oui, non, c'est pas grave. Et oui, exactement. C'est elle qui est un peu partie ces affaires-là. Tu sais, c'est vraiment ce lien avec notre espace de vraiment épurer. Puis moi, vraiment, dans mon entreprise, c'est ma spécialité. C'est vraiment d'enseigner le mode de vie minimaliste aux gens. Donc, c'est pas juste de l'organisation puis de mettre les choses dans des petits paniers de couleurs puis que ce soit cute puis bien rangé, là. Le truc, c'est vraiment de se dire c'est quoi que j'ai besoin dans ma vie, c'est quoi mon essentiel, puis d'enlever ce qui est superflu, tu sais. Donc, c'est vraiment de revenir à ça pour nous faciliter la vie au quotidien parce que, tu sais, on passe notre temps à gérer nos maisons. Moi, je me rends compte que, tu sais, on est devenus des gestionnaires de nos maisons. Alors que la maison, on devrait rentrer puis pouvoir se reposer, relaxer, passer du temps avec les gens qu'on aime, faire des loisirs, des affaires de même. Mais non, là, on est comme go, faut faire le lavage, faut ci, faut ça, faut ranger. Non, non. Puis on est tout le temps en train de s'occuper de la maison. Puis ça, c'est parce qu'on a trop d'objets, qu'on a trop de stock.
Fait que là, ben, Krim, c'est très intéressant. j'ai plein de questions qui fusent dans ma tête. Mais. Dans le fond, ce serait quoi les avantages, tu sais, pour notre santé mentale, pour notre bien-être, de mieux s'organiser puis d'épurer, comme tu dis, ouais.
Ouais, ben en fait, on parle souvent de la charge mentale. Ouais. C'est souvent plus les femmes aussi qui le vivent, tu sais, de tout devoir penser, ah ben là, tu sais, le rendez-vous le médecin, les devoirs, la bouffe, l'épicerie, le truc. Bien, plus on a de stock, plus on a de choses à gérer, plus ça alourdit la charge mentale. Quand on enlève tout ce qui est superflu, ça permet de se concentrer, de focusser vraiment ce qui est important dans nos vies. Puis, quand on parle de mode de vie minimaliste, souvent les gens ont peur parce que l'image que je donne tout le temps, ils ont l'impression qu'on vit comme une nonne, tu sais, qu'on n'a rien ou un moine, là, puis qu'on a rien du tout, puis que c'est austère. Mais c'est pas ça. Tu ris, mais c'est ça, les gens, ils rient tout le temps. Mais quand je parle de minimalisme, ils sont là, oh boy, elle va m'enlever toutes mes affaires, tu sais. Mais c'est pas ça. Le but, quand on est minimaliste, c'est juste de déterminer c'est quoi, moi, mon besoin dans mon présent. Dans ma vie d'aujourd'hui, c'est quoi que je veux avoir, tu sais. Donc, mettons, tu sais, t'aimes ça faire de l'artisanat. C'est correct que t'aies des affaires d'artisanat. T'aimes ça faire du sport. T'as du matériel de sport. C'est correct. Le truc, c'est d'enlever ce qu'on n'utilise pas ou qu'on n'a pas de besoin, ce qui n'apporte pas une plus-value dans ta vie. T'sais, donc ça, tu l'enlèves parce que c'est de l'énergie, du temps, même de l'argent que tu mets sur des choses qui ont zéro valeur pour toi ou qui t'apportent rien. Donc, c'est pas gagnant, là, t'sais. Donc, c'est de faire partir ces affaires-là pour justement pouvoir garder son énergie, son temps et tout pour ce qui est vraiment important, ce qui nous apporte de quoi. T'sais, en anglais, le terme, c'est « meaningful », pour avoir une vie « meaningful », donc une vie qui fait du sens, t'sais, qui est vraiment comme ça. Donc, c'est ça qu'on essaie, en tout cas que moi, dans ma mission et dans ma vision de mon entreprise, c'est ça que j'amène aux gens, c'est qu'ils comprennent que justement, au lieu d'être esclaves de leur maison, ben ils vont pouvoir simplement être chez eux et profiter de vivre.
Mais là, tu parles de profiter de vivre, là, ça m'amène à parler un petit peu du télétravail, parce que là, avant, la maison, c'était seulement un endroit où est-ce qu'on était, quand on était comme en congé ou pas au travail. Mais maintenant, il y a comme une fusion entre les deux, là. C'est l'espace de travail puis l'espace de vie.
Oui.
Est exactement le même pour plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser comme il faut en télétravail, pour garder les deux un peu séparés, pas avoir l'impression d'être tout le temps au travail? Parce que ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent comme ça, tu sais. Si ton bureau, finalement, c'est la même place que tu dînes, puis que tu écoutes la TV, mais finalement, tout est flou, puis tu as l'impression de jamais être en vacances.
Ouais, ou de jamais vraiment être au travail, tu sais, c'est la même affaire un peu, là, tu sais. Donc, en effet, on vit une situation très particulière depuis quasiment un an, parce que avant justement, on sortait souvent de notre maison. Donc, on n'avait pas conscience forcément de notre environnement, parce qu'on n'y était pas souvent. Mais là, on n'a plus le choix, on ne peut plus s'étourdir non plus puis aller tout le temps à l'extérieur. On est confronté. Mais c'est ça, des fois.
On ne peut plus sortir juste pour ne pas faire le ménage.
Non, c'est ça. T'es obligé d'être là chez vous tout le temps. Donc, c'est sûr que ça te confronte un peu plus, des fois, peut-être à des problématiques qu'il pouvait y avoir. Moi, je dirais le premier truc qu'il faut penser, c'est vraiment de s'asseoir puis de faire le bilan. Tu sais, de se dire, bon, mais OK, c'est quoi les besoins de chacun dans la maison? T'sais, moi, j'ai besoin, mettons, de faire des meetings souvent, j'ai besoin de silence, j'aurais besoin d'une pièce fermée, je peux pas être à côté des kids qui bougent puis qui regardent la TV. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir pour chacun qui travaille à la maison ou même avec les enfants à la maison, c'est quoi le besoin, t'sais, c'est quoi chacun qui a son besoin puis comment on peut adapter l'espace. Parce que l'espace, c'est quelque chose qui est pas statique. On a tendance à vouloir trop figer ça, tu sais, de se dire que, OK, mettons, l'exemple que je donne tout le temps, c'est la chambre des maîtres dans un appart ou dans une maison, ça va toujours être la plus grande chambre de la maison. Mais là, en ce moment, si le besoin est différent, on peut jouer à la chaise musicale des pièces puis se dire, bon, mais moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un bureau fermé. Ben, crime, je vais peut-être sortir une commode de la chambre à coucher puis je vais m'installer mon bureau là parce que je sais que je peux fermer la porte puis être tranquille. Ou de se dire, OK, je veux vraiment récupérer une pièce parce qu'on est deux à avoir besoin d'un bureau. Les enfants en ce moment, on va les mettre les deux dans la chambre des maîtres. On va prendre cette pièce qui est plus grande là, puis on va faire une grande chambre d'enfants, puis on récupère une chambre, tu sais. Donc, c'est ça, c'est d'essayer de vous asseoir puis de faire le bilan, de se dire c'est quoi que j'ai de besoin puis comment on peut réaménager l'espace. L'idéal, c'est sûr, si tu as une pièce séparée puis tu peux mettre ton bureau là, tu sais, ou que tu as un sous-sol et tout, ben crime, c'est facile. Souvent, la problématique, c'est qu'on n'a pas une pièce supplémentaire pour pouvoir se faire un bureau. Puis oui, on va se retrouver sur le coin de la salle à dîner, de la table à salle à dîner ou le coin de comptoir de cuisine pour travailler, tu sais. Puis là, c'est pas optimal pour personne. Donc, c'est vraiment de faire ce bilan-là puis se dire, bon, ben qu'est-ce qu'on peut enlever? Puis c'est de revenir, comme je disais, à l'essentiel. En ce moment, ton besoin, c'est d'avoir un bureau à la maison. Donc, est-ce que, je sais pas, moi, la table de baby-foot, c'est vraiment encore important dans le sous-sol en ce moment? Tu sais, c'est ça, c'est de vraiment réévaluer la situation par rapport au présent. Puis, ça peut rechanger. Dans 6 mois, si t'es plus en télétravail, mais crime, tu peux redéfaire les affaires puis redéplacer les meubles. Il n'y a rien de figé. Souvent, les gens, c'est ça, sont trop statiques puis se disent, ben, j'ai pas d'espace, je peux pas rien faire.
Fait que la première étape, c'est d'évaluer nos besoins. Puis, mettons, une fois qu'on les a évalués, ben, j'imagine, c'est de s'ajuster au mieux possible dans ce qui est...
De ce qu'on a à disposition, exactement, que t'as à disposition. Donc, c'est de voir quelle pièce tu peux utiliser, quel espace perdu. Parce que des fois, dans des maisons, on a des espèces de recoins, tu sais, qui sont moins utilisés ou qui sont plus déco. Puis que là, en ce moment, ben, c'est pas le besoin. Donc, on va se dire, ben, crime, je sais pas, moi, là, l'espèce de console qui faisait juste d'avoir un vase décoratif, ben, il pourrait peut-être partir, puis ça pourrait être le coin bureau, tu sais. Après, c'est sûr que si on n'a vraiment pas du tout d'espace, tu sais, qu'il faut vraiment jongler parce que tu es dans un petit appartement puis que t'as vraiment pas de place. Moi, ce que je dis de travailler, c'est toujours de travailler la verticalité. On utilise très peu nos murs. Donc, c'est d'aller voir en hauteur qu'est-ce qu'on peut utiliser. Tu sais, ça peut être une tablette avec que tu peux replier, que tu sais, que quand tu travailles, tu l'ouvres. Puis là, tu peux justement, comme tu sais, t'installer. Puis quand tu n'en as plus besoin, mais tu la replies le long du mur. C'est de travailler, mettons, une desserte, tu sais, une desserte de cuisine, là, les petites affaires qui sont sur roulette, ben, tu sais, tu peux le rouler, tu le déplaces avec toi. Donc, si tu as besoin d'être tranquille, tu peux aller dans la chambre, mais tu sais que tout ton matériel est là. Donc, tu sais, c'est d'aller travailler plus la mobilité ou la flexibilité, on va dire. Puis de travailler les murs. On utilise très, très peu, justement, cette surface-là. En plus, des fois, on a des murs de 8 pieds de haut, puis, tu sais, c'est tout de l'espace qu'on n'utilise pas. Donc, c'est d'essayer d'aller travailler cette verticalité-là.
Montez ça dans une tablette.
Exactement.
Moi, j'ai un truc chez nous. Je vais te faire une confidence. Mais il y a une place que les trucs que je veux jeter, je les préjette. Okay? OK? Mettons, tu sais, des vieux dessins, là, ou je sais pas trop, là, des trucs qui servent plus. Je les prends et je les mets là. Puis là, si, mettons, il reste là une semaine, personne n'en a parlé, ben ça veut dire que je peux y jeter.
C'est bon. C'est ce que moi, j'appelle la zone tampon.
C'est bon, comme, ben tu vois, ça...
C'est ça. C'est que quand tu as une hésitation, tu n'es pas sûr, ça va sortir. En effet, tu sais, on dit les objets, c'est loin des yeux, loin du cœur. Donc, tu sais, des fois, c'est de briser juste cette espèce de lien affectif qu'on a avec un objet. Puis quand on le voit plus puis qu'on l'a oublié, ben c'est que c'est correct, il peut partir, tu sais. Donc c'est un bon truc.
C'est un bon truc. Bon, mais merci de cautionner ma stratégie de préjeter. ben c'est drôle, ça m'amène à parler, tu viens de dire loin des yeux, loin du cœur. Mais on en parlait juste avant de commencer l'émission, mais il y a un gros lien affectif entre nos objets puis nous. Puis des fois on a tendance à garder des choses juste pour des souvenirs. Mais ça, c'est-tu bon, ça, de se garder un coffre à souvenirs, par exemple?
Alors, c'est correct d'avoir quelques souvenirs. Tu sais, je dis pas qu'il faut tout effacer, mais c'est rendu problématique si, mettons, tu as 25 boîtes dans le sous-sol d'albums photos ou de souvenirs que tu gardes, tu sais, de ton enfance puis que tu n'en as pas de besoin, mettons. Tu sais, c'est toujours d'être dans le rationnel aussi. Puis moi, ce que je dis tout le temps, ben, tu sais, c'est ça, il y a comme 3 types d'objets qu'on a dans nos vies. On a ceux du présent. C'est ceux qu'on utilise tout le temps. Puis ceux-là, c'est ceux avec lesquels on a le moins de liens affectifs parce qu'on les utilise, donc on les aime pas. Mais après ça, on a ceux du passé qui sont justement les souvenirs, tu sais, les trucs de voyage, les albums photos, nos affaires de cours quand on était à l'université, des affaires de même.
Ça, les c'est ceux avec des enfants qui sont trop petits.
Oui, exact, aussi, tu sais, tout. Donc, on garde ça parce que ça nous ramène dans un moment, ça nous ramène dans une émotion. Et ça, c'est les objets qui sont les plus difficiles à se séparer parce que le lien affectif est très fort. Il va vraiment chercher de quoi très, très ancré. Mais c'est de se dire, c'est de dissocier, en fait, la chose. Parce que souvent, un souvenir, une émotion, une personne, ben, c'est dans notre cœur puis dans notre tête qu'on l'a. C'est pas l'objet en tant que tel que l'émotion est ancrée dedans, tu sais. Donc, souvent, tu sais, on va parler d'un voyage, on n'a pas besoin de sortir l'album photo pour s'en souvenir, tu sais. Donc, c'est vraiment de se dissocier de ça. Puis les autres objets, c'est ceux du futur. Ça, c'est les au cas où que j'en aurais besoin. Ça, c'est une autre catégorie d'objets qu'on garde aussi souvent, mais ça a plus une émotion d'anxiété par rapport à un futur qu'on connaît pas, donc on veut être prêt à toute éventualité, mais c'est un futur qu'on ne sait même pas s'il va exister. Donc finalement, ces deux types d'objets-là nous empêchent de nous ancrer dans le présent. Donc, c'est ceux-là qu'il faudrait avoir le moins possible dans nos vies. Mais tu sais, on a toutes des choses... Il n'y a pas de perfection. Tu sais, le truc, c'est juste de se sentir bien puis d'être à l'aise avec ce qu'on a puis de ne pas se sentir justement embourbé ou une espèce de lourdeur. Donc, c'est d'enlever juste qui vraiment nous empêche d'être bien, tu sais.
Fait que mettons, là, je ramène à l'exemple du télétravail. Là, je suis en télétravail chez nous... Mon espace télétravail devrait ressembler à quoi? Qu'est-ce que je devrais garder proche? Qu'est-ce que je devrais au contraire éloigner? Comment on s'organise?
Alors ça, c'est une très bonne question. Alors de un, justement, c'est d'évaluer le besoin. T'sais, si tu travailles juste avec un laptop, tu n'as pas besoin d'un bureau qui fait 6 pieds de long. Là, je veux dire, à un moment donné, ça peut être quelque chose de très petit qui peut très bien fonctionner. Normalement, la règle, c'est que quand tu utilises quelque chose à tous les jours, vraiment tout le temps, là, que tu en as besoin, mettons ton stylo, tu l'écris, tu t'écris tous les jours, tu en as besoin tout le temps, ça doit être à portée de main. Normalement, ça doit être vraiment autour de toi, autour de ton laptop proche. Après, ce que tu utilises moins souvent, on dit que c'est à portée de bras, donc tu peux tendre ton bras pour aller le chercher sur une tablette.
Okay.
Puis, ce qui est vraiment beaucoup moins utilisé, on dit c'est à portée de jambe, donc tu peux te lever pour aller le chercher dans une autre pièce ou que ça pourrait être dans le sous-sol. T'sais. Donc, ça, c'est les choses qu'on utilise une fois ou par mois ou deux mois. T'sais. Donc, c'est d'essayer de faire cet ordre de priorité puis de vraiment déterminer ce que tu as vraiment besoin. Si tu fais juste travailler avec ton ordinateur, ben tu n'as pas besoin d'avoir des paquets d'enveloppes, du papier, des racks de stylos et tout à côté de toi si tu fais juste taper sur ton laptop. Puis souvent, on a cette espèce d'image qu'un bureau, il faudrait quasiment être une mini-succursale de bureau en gros puis d'avoir tout ce qui se fait, mais c'est pas nécessaire, ça. T'as pas besoin de tout ça. Donc, de nouveau, c'est de déterminer le besoin puis de voir vraiment ce qui est utile à toi pour travailler à tous les jours pour être fonctionnel.
Est-ce que tu as des conseils maintenant sur l'utilisation du cellulaire? T'sais, parce que le cellulaire, il peut devenir des fois envahissant. Puis là, oui. Surtout, tu sais, avant, on pouvait. Mettons, moi, j'avais un truc, je le laissais dans mon auto quand je revenais du travail. Mais là, je reviens jamais du travail parce que là, je suis chez nous. Fait que je ne vais pas le porter dans mon auto ou quelque chose de même. Là, comment on fait pour. Puis là, peut-être ça n'existe pas un truc comme ça, puis il faut juste se rationaliser ou je sais pas trop comment dire ça, mais. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de cette emprise-là du cellulaire?
Mais en fait, c'est dur en plus en ce moment parce que justement, c'est un peu notre seul lien de contact avec les gens à l'extérieur. T'sais. Donc, c'est sûr qu'on a toutes, je pense, développé une dépendance un petit peu plus forte à notre cellulaire en ce moment. Mais c'est sûr que c'est un peu, comme tu dis, loin des yeux, loin du cœur aussi. Là. C'est de le tenir loin dans une autre pièce, d'enlever les notifications aussi, qu'il arrête de sonner. Donc, si tu enlèves toutes les notifications, les sons, mais tu vas avoir moins tendance à aller essayer d'aller voir ce qui se passe là. Il y a aussi des systèmes, tu sais, selon le Wi-Fi, que tu peux bloquer certaines applications aussi pour pas être dérangé. Puis après, ben c'est sûr qu'il y a une espèce de gestion de l'horaire qu'il va falloir faire. Puis c'est un peu l'extension de l'organisation physique. Tu sais, tu t'organises physiquement, oui, c'est bien. Mais en télétravail comme ça, avec tout le monde qui est à la maison, il va falloir essayer de faire un horaire. Puis, tu sais, de concilier vie de famille, vie de travail, là. Ben en étant tous à la maison et tout, c'est pas facile, tu sais. Donc ça va être vraiment de voir, puis ça va pas être un horaire très typique. Tu peux pas dire je vais faire du télétravail peut-être de 8 à 4 là, parce que les enfants ils vont avoir peut-être besoin de l'ordi pour se connecter pour l'école. Donc tu sais, ça va être vraiment d'essayer de voir c'est quoi l'horaire idéal que vous pouvez monter. Puis après ça, d'avoir des périodes de se dire bon mais OK, tu sais, mettons le matin, j'éclaire mes courriels pendant 2 heures, après ça je ferme ça ou je casse mon cellulaire, j'en ai plus besoin, puis je fais mes autres affaires pour me concentrer. Puis je me regarde une période en fin de journée pour retourner sur les médias sociaux, les affaires de même. Puis oui, après, il n'y a pas de baguette magique. Tu sais, je veux dire, c'est qu'il va falloir se faire une discipline, de se mettre une routine. Puis tu sais, il y a comme 3-4, tu sais, au début de la pandémie, je veux dire, c'était pas facile. Là, ça fait quand même quasiment un an. Donc, tu sais, on a pu voir ce qui marche, ce qui marche pas. Tu sais, c'est un peu de l'essai-erreur aussi, de se dire, bon, ben, on a essayé telle affaire, ça, c'est cool, ça marche pour nous. Puis telle affaire, ça marche pas. Donc, tu sais, c'est de se réajuster puis de voir qu'est-ce qui est le mieux pour votre équilibre. Puis il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recette parce que chacun a une situation qui est complètement différente puis qui va avoir des besoins complètement différents. Donc, c'est vraiment, moi, je dirais, de vous asseoir ensemble aussi puis de faire une espèce de caucus puis de se dire, bon, mais OK, on s'autorise des périodes avec le cellulaire de telle heure à telle heure, tu sais, puis que ça se fasse vraiment une affaire familiale, qu'on se mette d'accord puis c'est une règle familiale puis après ça... On s'y tient, tu sais.
Fait que dans le fond, c'est un peu un processus décisionnel, ce qu'on a à faire. Moi, je me souviens, là, mon oncle Julien, qui était courtier immobilier, il y a plusieurs années, on cherchait un local commercial pour Défi Entreprise. Puis, il m'a dit, il y a tout le temps 3 étapes, puis ça m'est tout le temps resté. En premier, tu rassembles, lui, il appelait ça l'information, mais dans le fond, tu rassembles les besoins que tu as. Après ça, tu regardes, nous, on regardait un local, fait qu'on regardait ce qui était disponible, mais dans notre cas, mettons, on regarde quelle pièce pourrait être disponible, quel meuble pourrait être déplacé, adapté. Puis après ça, on prend une décision. Mais ça se peut-tu que des fois, l'étape la plus difficile, ce soit la décision?
Oui.
Parce que des fois, on la remet plus tard. Là, tu sais, on se dit, hey, j'aimerais savoir ça. Ah, je pourrais faire ça, mais finalement, on le fait jamais.
Exact.
Comment vous faites pour passer à la décision puis à l'action?
Bien, c'est justement d'arrêter de vouloir tout le temps trouver la solution parfaite. Parce que souvent, c'est ça aussi qui nous empêche, parce que on veut tellement trouver la chose qui va fitter parfaitement que finalement, on se bloque parce qu'on sait qu'on n'arrivera jamais à se rendre là. Donc, c'est juste de passer à l'action. Tu sais, moi, ma méthode, je l'appelle la méthode BAM, parce que c'est B, on fait le bilan, A, on passe à l'action, puis M, on maintient. T'sais, donc, c'est juste ça. Puis, dans la période du maintien, c'est où on réévalue aussi. T'sais, si on voit justement qu'il y a des affaires qui ne marchent pas, ben on se rassied, puis on réfléchit, puis on dit, OK, telle affaire, on pensait que ça allait marcher, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, on se réajuste. Dans le fond, c'est ça, comme je dis, c'est jamais figé. Il faut tout le temps s'ajuster, puis voir qu'est-ce qui marche ou non. Puis, c'est ça. Mais puis, oui, il y a la partie réflexion. Puis, en est, il faut prendre une décision, puis il faut agir, puis il faut l'essayer. Tu l'essayes, puis si tu vois que ça marche, c'est beau. Si ça marche pas, ben on réévalue. T'sais. Mais il faut pas rester dans dans le décisionnel, seulement dans la réflexion, parce qu'en effet, il se passera rien.
Exact. Ben c'est drôle parce que je peux faire un parallèle avec l'activité physique, mais tu sais, des fois, on se dit, hey, je vais m'entraîner, mais tu sais, on se dit, si je commence à m'entraîner, là, moi, j'ai vu ça souvent. Mettons, la personne a dit, moi, si je m'entraîne, c'est 3 fois 2 heures par semaine. Ça, c'est l'objectif, puis c'est ça ou rien. Mais finalement, tu sais, ça finit souvent que ça devient rien.
Parce exact.
Que 3 fois 2 heures par semaine, c'est un objectif, tu sais,
qui irréaliste.
A pas de sens, irréaliste, exactement. Mm-hmm. Alors que si on se ramène à qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on serait sûr d'être capable de faire pendant, mettons, 1 an. Moi, c'est une question que je posais souvent, là, tu sais, je disais, quel exercice ou quelle quantité d'activité physique t'es capable de faire cette semaine, puis tu vas être capable de maintenir ça pendant 52 semaines de suite? Ben ça, c'est un objectif qui est réaliste. Mais c'est un petit peu la même chose. C'est sûr que si on se dit on veut que ma maison, ça soit une maison IKEA ou tu sais, un truc parfait, mais je veux dire, comme qu'il y a dans les magazines, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Mais si on se dit, hey, je veux juste l'améliorer un petit peu, mettons.
Oui.
Puis qu'on passe à l'action là-dessus, c'est déjà plus facile.
Exactement. Tu sais, c'est un tiroir à la fois. C'est pas. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est un processus. C'est pas quelque chose. Puis le sport, c'est vraiment la même chose aussi. Tu sais, c'est un processus, c'est un changement de mode de vie. Tu sais, tu veux intégrer des bonnes habitudes de vie, que ce soit de l'exercice, de bien manger, peu importe. Mais c'est la même chose pour ton environnement, tu sais. Donc, tu vas y aller petit à petit, puis tu vas apprendre à le faire. Tu sais, c'est au début, ça va être, c'est comme le sport. Au début, là, quand tu vas au gym la première fois, tu vas pas soulever 50 livres. Tu sais, donc, tu vas commencer tranquillement. Donc, c'est la même affaire quand tu fais du désencombrement ou de l'organisation. Ben, tu vas un tiroir à la fois, puis, tu sais, ou une catégorie d'objets à la fois, puis tu fais ton tri, puis tranquillement, tu vas voir le bienfait que ça te fait. Puis comme le sport, à un moment donné, tu vas devenir comme un peu addict. Tu sais, à un moment donné, quand tu passes le cap de « c'est pénible de m'entraîner », mais que là, finalement, tu en as besoin de t'entraîner, ben c'est un peu la même chose avec le désencombrement. À un moment donné, tu as comme le déclic qui se fait parce que tu vois tellement ce que ça t'apporte comme libération, comme facilité et tout ça, comme bien-être, que tout d'un coup, tu veux continuer à le faire, tu sais. Donc, la roue tourne, puis là, ça devient beaucoup plus facile. Puis souvent, ce qu'on me demande, c'est « je commence par où ou par quoi? » Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est de commencer, tu sais. C'est de te faire un peu un plan de match, puis à un moment donné, c'est de dire « ben aujourd'hui, je mets ça à l'agenda. » Comme pour le sport, me dire « aujourd'hui, je vais aller marcher, point final, tu sais. » Puis ça peut être une demi-heure, ça peut être un 15 minutes, ça n'a pas besoin de se dire « je prends tout de suite une fin de semaine au complet pour tout désencombrer ma maison », tu sais, parce que tu vas te décourager, c'est sûr, c'est trop gros. Donc, c'est d'aller par petite étape, petite bouchée.
Puis est-ce que, tu sais, là, on a beaucoup parlé de désencombrement physique, mais est-ce que ouais. Ça peut, est-ce qu'on peut avoir le même problème, mettons, avec nos emails ou, tu sais, notre bureau, là, quand on arrive, là, c'est plein d'icônes, comment…
Exactement.
Le
but, de nouveau, c'est toujours d'essayer d'épurer le plus possible. Tu sais, il y a une méthode qui s'appelle le Lean. Tu sais, c'est Toyota qui a inventé ça, le Lean. Donc, tu sais, je veux dire, c'est le moins de d'efforts possible, puis de moins d'étapes possibles, et de simplifier le plus possible. Donc, tu sais, si t'as des dossiers avec des sous-dossiers, tu sais plus où tu dois cliquer, tu sais plus où tu dois ranger les affaires. C'est la même chose quand c'est l'environnement physique. Tu sais. Donc, c'est vraiment d'avoir des systèmes très, très simples. Puis oui, d'enlever le plus possible. Tu sais, les newsletters que t'écoutes, que tu lis pas ou que tu veux pas voir, ben tu te désabonnes. Oui, ça prend un petit peu de temps à ce moment-là, mais tu enlèves tout ce qui est de nouveau superflu puis qui te déconcentre et qui t'empêche de focusser sur ce qui est vraiment important.
Fait que c'est à la fois un processus physique, mais aussi informatique, si on veut, là, ou un processus aussi de travail. Avant qu'on passe à l'entrevue, là, j'étais allé voir sur ton site web, là, il y a un petit questionnaire qui est vraiment intéressant dans lequel j'ai essayé de me retrouver à plusieurs fois. Puis, tu sais, tu parlais, mettons, des factures. Puis, je trouvais que c'était un bon exemple parce que, tu sais, on t'a parlé de charge mentale au début, mais, tu sais, pas oublier de payer sa facture. Ça, c'est le truc, moi, ce que je trouve, ça prend une certaine charge mentale parce que là, t'as une pénalité là si tu le fais pas. C'est quoi ton truc par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en oublier?
Ouais.
Pas les payer tout de suite puis arrêter à chaque fois qu'on en reçoit une puis aller la payer. C'est quoi la meilleure méthode pour ça?
Alors moi, j'ai une méthode que je trouve très simple. C'est vraiment d'avoir un rack avec des fiches suspendues. Okay. Ou ça peut être horizontal, peu importe, mais avec trois sections. Il y a la section qui est comme à payer, à classer, puis à traiter. Donc, quand tu reçois ton courrier ou ton... Et tu peux le faire sur ton ordi, la même affaire, là, tu sais. Donc, tu classes tes factures que tu reçois par courriel, mettons dans... OK, ça, c'est une facture que je dois payer. Donc, tu la classes dans le dossier à payer. Puis, tu te mets une date par mois ou deux semaines, tu sais, ou ça peut être par semaine, tu sais, pour justement, tu te dis, bon, ben OK, vendredi matin, je prends une demi-heure, puis j'ouvre mon dossier à payer, je prends toutes mes factures, je les paye. Les à traiter, le dossier à traiter, c'est quand tu dois faire une intervention. Tu sais, mettons, tu dois appeler quelque part pour régler des choses, tu sais, que tu dois faire vraiment une intervention. Donc là, tu le mets dans à traiter. Puis pareil, tu te mets une plage horaire pour justement traiter ces documents-là, faire les étapes. Puis le à classer, c'est quand tu reçois de la documentation qu'il faut juste comme classer ou archiver. Donc, tu peux directement la mettre là, mais tu sais que tu vas quand même devoir la classer dans ta filière, mettons, des affaires de même. Donc, tu sais, c'est trois fiches ou trois sections dans un rangement, puis tu mets tes documents là, mais il faut travailler avec un agenda, parce que si tu les mets juste là, elles se régleront pas tout de suite non plus.
C'est pas magique, là. OK, ils vont pas se payer.
Non, il n'y a pas de pensée magique qui va faire qu'elles vont se payer tout seules. Mais donc, il faut toujours que tu travailles avec ton agenda, mais au moins, tu sais que tout est là, tu sais, puis tu peux justement le préciser de... une fois par semaine ou une fois deux semaines, tu peux t'aligner avec tes payes aussi. T'sais, moi, des fois, je dis, les gens, ils sont mal pris parce qu'ils disent, ah, tu sais, ça tombe à tel jour du mois, mais moi, je reçois ma paye au 15 jours, puis ça tombe mal. Mais tu peux appeler ta compagnie de téléphone puis dire, hey, au lieu de la recevoir le 4, j'aimerais ça la recevoir le 15 parce que c'est là que je reçois ma paye. Ça se fait, tu sais, donc d'essayer d'aligner les affaires pour que justement les processus soient très simples, que tu puisses faire les choses comme par réflexe, que tu n'aies pas trop à réfléchir. Parce que la charge mentale, c'est quand tu dois réfléchir à tout. Mais si tu te mets en place des systèmes, que justement, tu sais, ça t'enlève cette réflexion, mais que c'est très précis, tu sais que chaque vendredi, tu ouvres ton ordi, tu prends le dossier à payer, puis tu claires tes factures, ça prend 15 minutes, puis c'est réglé, là. Puis tu n'en oublies pas.
Puis... là, si tu parles de système puis d'horaire, là, je voyais que c'était une autre comme recommandation que tu avais sur ton site, mais tu sais, j'ai un horaire professionnel qui est pas pire, mettons. Il est relativement bien organisé avec un calendrier et tout ça, mais personnellement, je trouve que c'est plus difficile. Puis tu sais, il y a des fois des choses qu'on contrôle pas, puis qu'on contrôle un peu moins. Mettons la météo, tu vas aller jouer au hockey, mais il fait pas beau, ben là tu peux pas y aller. Bon, fait que mettons, ça vaut-tu vraiment la peine de faire un horaire personnel en plus de l'horaire professionnel?
Alors moi, je pense que il faut pas qu'il soit dissocié. Tu sais, il faut qu'il soit imbriqué, parce que tu peux pas comme dire, ben ça c'est juste mon horaire de la job, ça c'est juste mon horaire de ma vie personnelle, parce que si une réunion prend plus de temps à ta job, ben ça va décaler sur ton horaire personnel. T'sais. Donc moi je trouve que c'est important de les imbriquer, puis de voir, puis d'avoir des buffers, d'avoir des zones tampons. Parce que souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va remplir nos horaires de bord en bord, t'sais, de tout à 15 minutes, à la demi-heure, puis que on n'a jamais un petit lousse si justement ça déborde. Puis c'est là où ça fait l'espèce d'effet domino. Où il suffit qu'un rendez-vous soit un peu plus retard, puis là, tout d'un coup, ça dégringole que toute ta journée, elle est à l'envers. Donc, c'est vraiment de se mettre des zones buffer, puis de se dire, ben ça, si j'ai du temps, ben ça va me laisser soit du temps pour aller prendre une marche, soit pour régler de la paperasse que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, c'est de se laisser un peu de lousse dans notre horaire, parce que c'est ça la majorité de la problématique de pas pouvoir gérer un horaire, c'est parce qu'on le remplit ben trop. De nouveau, on fait des objectifs irréalistes. On pense qu'on peut faire tout ça dans une journée, mais on n'est pas capable. On a besoin aussi de se concentrer, de respirer et tout ça. Donc, c'est impossible de tenir des horaires serrés de même.
Ben, c'est drôle, ça recoupe un peu ce qu'on disait. Là. Il y a quelques semaines, on parlait avec Julie Tremblay-Potvin, puis on parlait du temps blanc, ou white space en anglais. Puis elle disait que tu sais, c'était important de s'en garder pour réfléchir aussi, tu sais, prendre du temps pour soi, pour réfléchir à ce qu'on veut. Parce que si on est tout le temps, je me souviens plus du mot que tu as utilisé tantôt, mais mettons, on est tout le temps dans le feu de l'action, finalement, on n'a pas on remet pas en question ce qu'on est en train de faire. Puis des fois, de se donner un petit peu de temps, ça peut nous permettre de gagner du temps, mais c'est un peu la même chose dans l'organisation. Tu sais, si on prend un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire puis qu'on s'en garde aussi comme buffer, ben ça peut nous aider à être plus efficaces par la suite.
Exactement. Tu sais, ça nous permet d'avoir des fois un petit peu ce recul. Comme tu dis, quand on est dedans, des fois, on est comme la face dans le mur puis on voit plus rien, tu sais. Donc, des fois, c'est juste des temps d'arrêt où tu peux justement réévaluer la situation puis te dire, bon, ben OK, c'est où que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, puis c'est quoi mon besoin. Tu sais, ça revient toujours un peu à ça, à déterminer c'est quoi ton besoin pour justement garder un certain équilibre entre notre vie privée, notre travail, notre santé physique, mentale, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment d'essayer de jongler. Puis souvent, on essaie de mettre des choses beaucoup trop stiff. Puis je pense qu'il faut une structure, parce que sans structure du tout, t'sais, on est lousse aussi, puis ça donne rien. T'sais. Donc, il faut une structure de base, mais la structure, il faut qu'elle ait une certaine flexibilité, que tu puisses jouer avec un peu pour justement qu'elle te donne une certaine liberté. Parce que si c'est comme une prison, ça ne sert à rien non plus. Tu seras malheureux là-dedans.
Hein. C'est bon. Puis, tu sais, dans le fond, je reviens sur les besoins là, dont tu parlais. Mais c'est important aussi d'être honnête sur nos besoins. Parce que des fois, on se dit, hey, ça, j'en ai vraiment besoin, mais... C'est pas tout à fait vrai où on dit ça, mettons, pour cacher quelque chose d'autre, où on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Mettons, la semaine passée, on parlait avec Jean-Michel Pelletier, puis il dit, des fois, il y a des gens qui vont au gym, mettons, parce qu'ils sont dans un mode de séduction, puis ce qu'ils aiment, finalement, c'est pas nécessairement lever de la fente, mais c'est plus d'avoir le regard des autres. Mais tu sais, c'est correct, dans le fond. Il disait, là, je reprends ses mots, mais il disait, c'est correct, c'est juste qu'il faut savoir que c'est ça, puis que c'est ça l'objectif. Parce que là, après ça, ça va te permettre de choisir ton gym, mettons, en conséquence, puis de choisir ton activité physique en conséquence. Fait que, tu sais, c'est d'identifier les besoins, mais d'être transparent sur les vrais besoins aussi.
Oui, et d'être honnête avec ça, puis c'est d'apprendre à se connaître.
Exact.
Parce que souvent, on s'imagine un besoin. Puis, tu sais, justement, des affaires de « ah oui, je veux m'attirer ». Avec le sport, souvent aussi, tu sais, on le voit, là, les gens sont achetés de l'équipement de sport à plus finir, c'était dans une bonne intention, mais souvent, tu sais, on l'utilisera pas vraiment, mais c'est parce qu'on a une espèce de... On se ment à soi-même, on imagine la personne qu'on voudrait être des fois, puis que... On aimerait tendre à ça, mais c'est pas nous, tu sais. Donc, c'est vraiment des fois de se dire, OK, mais là, si je veux m'acheter une paire de skis de fond, je vais-tu vraiment aller en faire du ski de fond ou c'est juste parce que là, en ce moment, c'est à la mode puis que j'aimerais donc ben ça être en forme, tu sais. C'est vraiment d'être honnête, en effet, avec soi-même puis de vraiment apprendre à se connaître parce que souvent, je me rends compte que les gens savent pas c'est quoi leurs besoins, qu'ils se posent pas vraiment la question. Puis je pense qu'on est dans une période où on a justement la possibilité de faire ce temps d'arrêt, où la vie est un peu ralentie, puis où on se trouve un peu, veut pas, confronté à nous-mêmes, parce qu'on ne peut plus aller au resto, au cinéma, à s'étourdir à plein d'activités pour pas se poser les vraies questions. Là, on a cette opportunité, moi je trouve, de justement s'asseoir puis de dire « c'est quoi qui est important dans ma vie, c'est quoi que je veux vraiment ?» Puis, tu sais, le mode de vie minimaliste, l'organisation, c'est ça aussi, là. C'est vraiment de se dire, c'est quoi qui est important dans ma vie? C'est quoi que moi, je veux être? Puis, c'est comment que je veux vivre, tu sais? C'est juste de se ramener à ça.
Très, très intéressant, Marie-Sophie. En terminant, c'est quoi tes projets là, pour cette année? Si les gens, mettons, ils veulent avoir, ils veulent utiliser tes services, est-ce que tu as des formations? Est-ce que tu vas vraiment chez les gens? Tu fais tout ça par visioconférence? Je sais pas comment ça se passe ces temps-ci, là, mais
oui.
Comment ça marche?
Ben écoute, oui, ces temps-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, je suis encore autorisée à aller chez les gens parce que les services d'entretien ménager ou de soutien à domicile sont quand même autorisés. Okay. Donc, c'est sûr qu'on le fait dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. Oui. Puis, je respecte les gens aussi. S'ils veulent le faire en visioconférence, on peut le faire aussi. Après, c'est sûr que le vrai travail de vraiment aider à désencombrer, c'est plus difficile de le faire en visioconférence parce que ben c'est comme le sport de nouveau. Souvent, tu as besoin de ton coach à côté de toi qui va te donner un petit coup de coude puis qui va te dire « Hey, go, vas-y, t'es capable. » Donc, c'est un peu la même chose. Il y en a qui ont vraiment besoin de ma présence pour qu'on soit capable de le faire. Mais je me suis réadaptée aussi, je vais y réinventer. Et en fait, au mois de mars-avril, là, je ne sais pas encore la date exacte, mais je vais partir vraiment un programme sur un an pour accompagner les gens, en fait, dans ce processus de désencombrement et de réorganisation. Et il y aura une thématique par mois, donc les gens pourront vraiment soit prendre l'abonnement pour l'année au complet ou acheter à la carte. Okay. Les thématiques qui les intéressent. Puis, on va aller vraiment chercher aussi le côté émotionnel. Il y aura un psychologue. On va aller chercher le feng shui aussi. On va vraiment aller chercher le bien-être. Comme je te disais quand on se jasait avant, pour moi, c'est comme un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain, parce que notre environnement, c'est comme l'extension de qui on est. Donc, souvent, quand on va pas bien, notre environnement, il va pas bien non plus. Donc, le but, c'est vraiment d'être bien chez soi puis de ramener ça. Donc, je vais avoir beaucoup d'intervenants, puis on va aussi avoir le côté un peu éco-responsable, parce que souvent, dans le mode minimaliste, ben, les gens vont vers ça aussi, parce que le but, c'est d'avoir un moins gros impact aussi sur l'environnement, de consommer différemment. Donc, c'est tout ça qu'on va aborder dans ce programme-là, là, puis pour les accompagner sur un an, parce que c'est un processus généralement que j'ai vu chez mes clients que ça prend un an pour remettre ta maison, tu sais, tout du bon bord, puis tu sais, de voir vraiment pièce par pièce, puis tout ça.
Moi, je voulais changer ça en fin de semaine, je suis mal pris, là.
Non, c'est ça. Ça se fait pas. Quand les gens me disaient, hey, tu peux-tu faire ça en deux semaines? Bien, ça se peut, mais il faut vraiment que la personne soit très willing puis qu'elle soit prête à ça, parce que souvent, là, c'est très énergivore, parce que justement, on va aller briser ces liens émotifs et ça prend quand même du temps, donc ça se fait pas si vite que ça, mais c'est ça. Donc ça, c'est le gros projet de cette année, c'est vraiment de partir ce programme-là avec beaucoup d'intervenants qui vont voir tous les aspects de la maison. Donc c'est vraiment, ça va être ma maison, mon repère, pour que vraiment on reprenne que la maison, c'est mon point de repère, mon point d'ancrage.
C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marie-Sophie, pour tes conseils, ton expertise en lien avec l'organisation. Je pense que ça va nous aider à mieux s'organiser puis à être plus efficace au travail chez nous, finalement. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, peux-tu juste nous rappeler ton site web, c'est quoi en termes?
Oui. Alors, c'est www.marisso.ca ou sinon, vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, ma page Facebook Pro Marisso Organisation.
Bon, ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
Ça fait plaisir.